Bienvenue sur le Rendez-vous Marketing, le podcast 100% dédié à l'acquisition en ligne. Quel que soit votre levier payant ou organique, vous trouverez sur ce podcast des astuces, des bonnes pratiques et des stratégies payantes appliquées par des experts et des marques e-commerce à succès comme Merci Andy, 900K, Spring et bien d'autres. Et quant à moi, je me charge de tout dégrossir avec mes invités ou en solo afin que vous puissiez mettre en pratique ces conseils et ces stratégies dans votre business. Mais attention, dans le digital, ce qui était vrai aujourd'hui ne le sera peut-être plus demain, alors abonnez-vous à ce podcast pour rester constamment à jour. Ce podcast est rendu possible par DHS Digital, qui est une agence d'acquisition multilevier experte des plateformes Facebook et Google que j'ai fondée pour accompagner les marques jeunes ou établies à accélérer leur croissance. Et pour y arriver, on a développé une approche holistique de la publicité qui combine media buying, testing créa et conseils stratégiques pour l'e-commerce. Alors si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business. Je vous souhaite un bon épisode. 2022 et 2023 ont clairement été des années difficiles pour les marques D2C. C'est comme ça que je vais introduire ce podcast parce que je pense que de nombreuses marques, peut-être qui m'écoutent d'ailleurs, ont eu des grosses difficultés et pour certaines sont même au bord de la faillite, alors que d'autres s'en sortent très bien et restent en croissance. Comment expliquer que certaines marques s'en sont mieux sorties que d'autres? Moi, ce que je pense, c'est qu'il y avait certaines marques qui avaient des meilleurs fondamentaux qui leur ont permis de passer la tempête et continuer à croître. Et dans cet épisode de podcast, je vais peut-être vous parler des indicateurs qui permettent d'évaluer la santé d'un e-commerce et son potentiel de croissance. Et pour ça, je me suis basé sur des recherches de marché que j'ai faites, mais également sur tous les podcasts que j'ai enregistrés l'année dernière avec des e-commerçants pour en fait vous sortir 5 traits qui vont être représentés par 5 indicateurs mesurables qui permettent de prédire la santé de votre e-commerce et son potentiel de croissance. Vous allez voir, c'est toujours du concret, c'est pas juste moi qui donne des indicateurs pour dire d'en donner, c'est vraiment des choses que j'ai entendues, que j'ai vues, que j'ai observées chez des clients. Et le premier indicateur que j'ai en tête, qui permet vraiment d'évaluer votre santé, c'est clairement votre marge brute, qu'on appelle également marge contributive 1. Et en fait, quand votre marge brute, elle est au-delà d'un certain seuil, le seuil pour moi, c'est au moins 65%, mais je dirais même 70% de votre chiffre d'affaires hors taxe, là on peut dire tout doucement que vous avez des bons fondamentaux. Donc comment on calcule une marge brute? Une marge brute, c'est simplement le chiffre d'affaires hors taxe moins tous les coûts liés à la production d'un produit et à son envoi. Donc je compte évidemment les coûts de production, les coûts d'envoi, les commissions des plateformes. Et en fait, cette marge brute, c'est peut-être pour moi l'indicateur le plus important dans le pilotage quotidien des publicités, parce qu'il nous permet d'avoir un œil direct sur l'argent qu'on gagne quand on dépense 1 euro sur Meta ou sur Google, par exemple. Et chaque marque, évidemment, va avoir des marges brutes plus ou moins différentes en fonction du prix de vente du produit, mais bien sûr de son coût de revient. Donc nous, ce qu'on veut, c'est avoir cet indicateur le plus élevé possible, parce qu'il nous permettra de réinvestir l'excédent, donc la marge, dans l'acquisition, ou alors pour recruter une équipe de choc pour développer la marque, indépendamment du panier moyen d'achat. La question qui revient souvent, c'est quelle marge brute viser en pourcentage de chiffre d'affaires hors taxe. Donc là, je vous donnais un seuil de 65-70%. Encore une fois, c'est quelque chose que j'ai entendu à la fois par des pros du secteur, mais également par des e-commerçants avec qui j'ai discuté, qui me donnaient clairement leur marge brute. Et j'ai rarement entendu des marges brutes inférieures à 65% du chiffre d'affaires hors taxe. Donc en fait, ce qu'on peut dire, c'est que idéalement, c'est bien de viser au moins 70% de marge brute, et même idéalement 75%, voire même 80%, évidemment plus élevé au mieux, afin d'opérer sereinement. Pour vous présenter l'importance de la marge brute, je vais vous donner un petit exemple très simple à comprendre. Imaginez que vous avez un e-commerce, vous avez un panier moyen d'achat à 100 euros, donc ça paraît élevé. Si vous avez une marge brute, par exemple, à 60%, ben finalement, on n'a pas énormément de marge pour l'acquisition, parce que 60 euros moins 40 euros de coût, il ne reste plus que 60 euros de marge. À ça, il faut retirer tous les coûts fixes, donc là ça va être les salaires, les logiciels, les bureaux et d'autres frais que j'oublie sûrement. Donc on peut estimer que c'est au moins 25 à 30%. On va dire que si vous retirez 2,60 euros, 25 à 30 euros, il reste plus que 30 à 35 euros, et à ça vous devez investir dans l'acquisition. Donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous devez alors avoir des coûts d'acquisition qui sont assez faibles et qui sont difficilement soutenables pour une marque, parce que malheureusement, les coûts d'acquisition, ils augmentent avec le temps. Et surtout, la concurrence est de plus en plus élevée. Donc, c'est de plus en plus dur d'avoir des bons résultats sur Meta ou sur Google. Donc là, typiquement, cette marque, elle devrait opérer avec des CPA à 20 euros ou moins, donc à un ROS supérieur à 5. Et je peux vous le dire d'avance, c'est pas simple d'avoir des ROS supérieurs à 5, surtout quand on n'est pas très connu quand on démarre. Donc c'est difficile, mais pas impossible. Et c'est pour vous montrer à quel point la marge brute, elle est importante, parce que si elle est trop basse, malheureusement, ça ne laisse pas assez d'argent pour investir sur Meta ou sur Google et être rentable à la fois. Sinon, on peut le faire, mais il faut avoir levé des fonds pour se permettre d'être un peu moins rentable au début et que peut-être capitaliser un peu plus avec la LTV. Mais ça, on y reviendra dans la suite de l'épisode. Je passe maintenant au deuxième indicateur qui est important pour un e-commerçant, qui est important pour mesurer sa santé, c'est la répartition de son CA entre nouveaux et anciens clients. Donc là, l'idée, c'est de se dire, OK, quand je gagne 10 000 euros, combien de pourcentage de mon chiffre d'affaires provient de mes clients existants? Évidemment, plus c'est élevé, au mieux. Mais le problème, c'est que cet indicateur-là, c'est très difficile de donner une moyenne parce que chaque business va avoir, on va dire, son propre benchmark en fonction de l'industrie. Donc si par exemple, je vends des matelas, évidemment que ma répartition de CA entre nouveaux clients et anciens clients sera plus en faveur des nouveaux clients que des anciens clients parce que quand on achète un matelas, on l'achète pour plusieurs années. Alors que si je vends des compléments alimentaires, là, c'est autre chose puisque des compléments alimentaires, par définition, on les prend sur plusieurs mois, plusieurs années parce que l'effet ne se fait pas sur un seul mois. Donc logiquement, il y a une récurrence. Par contre, on a un panier moyen beaucoup plus bas que sur les matelas, ce qui fait qu'on est obligé de miser sur la rétention pour être vraiment rentable à la fin. Et donc, pour revenir sur le ratio va vraiment varier d'un e-commerce à l'autre. Moi, j'aime bien dire que au moins 25%, c'est quand même une target à avoir, peu importe l'industrie, même si encore une fois, il y a toujours des exceptions. Hein, je prends les matelas. C'est sûr que c'est difficile d'être à 25% quand on vend des matelas, mais si je prends la grande majorité des business, je prends du prêt-à-porter, de la cosmétique, de l'alimentation, ça peut être également... là, je pense à Cabaya, par exemple, pour tout ce qui est sac. Toutes ces marques-là ont des rétentions qui vont être supérieures à 20% minimum parce que c'est ce qui permet de soutenir sur le long terme des coûts d'acquisition qui vont augmenter. Maintenant, je vais vous donner quelques pistes pour interpréter au mieux cet indicateur avec deux cas diamétralement opposés. Je vais prendre à nouveau l'exemple des matelas. Donc, imaginez, vous vendez des matelas. Donc, c'est un produit finalement qui, par définition, a un faible taux de réachat. Ben, clairement, la rétention sera moins importante pour ce produit et vous devriez donc miser plus de temps et de ressources sur de l'acquisition de nouveaux clients. Donc là, typiquement, vous serez facilement sur du 80-90% de revenus qui provient de clients, de nouveaux clients et c'est normal. De toute façon, vous pouvez permettre d'avoir des coûts d'acquisition plus élevés parce que vous vendez un produit qui est plus cher. Pour autant, on peut toujours optimiser la rétention, hein, c'est ce que font des marques comme Kipli ou comme Teddy Bear qui vont élargir au fur et à mesure leur gamme avec du linge de lit, des couettes, des sommiers, des oreillers afin, encore une fois, d'aller faire revenir leurs clients existants ou avoir des produits qui vont aller chercher des nouveaux clients qui ne sont pas trop chers et qui permettront ensuite d'upseller les produits qui sont plus chers. Bref, c'était la petite parenthèse. Maintenant, je repasse sur la partie coût d'acquisition. Donc clairement, pour un e-commerce qui n'a pas un taux de réachat qui est élevé, cet e-commerce-là doit être très prudent sur l'évolution de son coût d'acquisition dans le temps et tout faire pour le stabiliser parce que s'il ne stabilise pas son coût d'acquisition dans le temps, eh bien, ça pourrait diminuer sa marge contributive 2 et donc sa marge bénéficiaire à la fin. À l'inverse, si je prends un business qui vend un produit avec un fort taux de réachat, je reprends l'exemple des compléments alimentaires, eh bien lui, il aura un chiffre d'affaires beaucoup plus alimenté par des clients existants et sera donc moins dépendant de l'acquisition pour croître. Et c'est ce que j'ai vu avec certains clients qu'on a eu dans ce secteur-là, c'est que ces marques-là, même en période de crise, elles continuent à croître. Même quand les coûts d'acquisition augmentent, elles continuent à croître parce que derrière, elles ont des dizaines de milliers de clients qui vont continuer à commander parce qu'ils ont déjà été séduits par la marque et par les produits. Donc, ces business-là vont peut-être avoir un panier moyen d'achat qui est plus bas au départ, peut-être 50 euros, 60 euros, mais vont avoir une LTV qui va augmenter avec le temps. Et donc, cet e-commerce-là, typiquement, pourrait potentiellement se permettre de payer plus cher pour un nouveau client, même si la première vente n'est pas rentable. Ça suppose qu'ils ont la trésorerie. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on a une LTV qui est importante et qu'on a une très bonne rétention, on peut se permettre d'aller peut-être chercher un coût d'acquisition un peu plus élevé et rogner un peu plus sur la marge bénéficiaire sur la première vente. D'accord ? Donc, du coup, si je reviens sur l'indicateur-là, comme je vous le disais, visez 20 à 25%. Et je ne vous conseille pas forcément de suivre l'indicateur mois par mois, mais plutôt sur des périodes plus étendues, au trimestre ou à l'année, afin de voir comment ça évolue au fur et à mesure du temps et de voir si finalement, au fil du temps, est-ce que vous arrivez à augmenter petit à petit la part du chiffre d'affaires qui provient de la rétention, donc les anciens clients qui réachètent sur votre site. Et c'est finalement l'objectif de toute marque, c'est-à-dire de générer toujours plus de ventes de la part de clients existants, parce que cela va toujours coûter moins cher de vendre un produit à un client existant qu'acquérir un nouveau client. Donc je vais terminer là-dessus. Maintenant, je passe à l'indicateur numéro 3, donc un indicateur qu'on mesure pas tellement parce qu'il est assez technique, c'est le ratio LTV sur CAC. Donc là, ce qui se dit en tout cas beaucoup et ce que j'ai beaucoup entendu, c'est que avoir un ratio LTV sur CAC supérieur à 3, c'est indicateur d'une bonne santé et d'un bon potentiel de croissance, et c'est ce que les investisseurs aiment bien. Donc là, c'est comme je vous disais, c'est un indicateur que regardent peu d'entreprises, et ça se comprend parce que c'est pas facile de l'estimer, puisqu'il faut connaître à la fois son coût d'acquisition client, il faut le calculer, et sa LTV. Donc la LTV, c'est pas simple de le calculer, surtout quand on n'a pas beaucoup d'historique. Donc généralement, ce qui est intéressant de faire, c'est de le calculer peut-être sur une année, de prendre tous vos clients qui sont arrivés et regarder un an plus tard combien ils ont dépensé, afin de voir finalement quel est votre LTV sur un an au moins. Et donc le ratio LTV-CAC indique clairement la santé, la rentabilité et le potentiel long terme de votre e-commerce. Parce que plus il est élevé, plus ça veut dire que vous êtes capable d'augmenter la valeur d'un client avec le temps. Le ratio LTV-CAC, il compare la valeur nette que chaque client apporte à l'entreprise sur toute sa durée de vie par rapport au coût nécessaire pour acquérir ce client. Et on considère que ce ratio est bon pour un e-commerce quand il est de 3 sur 1 au moins, comme je vous le disais. Ce qui signifie que la valeur vie d'un client est au moins 3 fois supérieure au coût d'acquisition. Donc pour revenir sur l'indicateur et pour terminer, plus il est élevé, au mieux, puisque cela veut dire que vous êtes moins dépendant de l'acquisition de nouveaux clients. C'est vraiment ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous avez un ratio LTV sur CAC très élevé, vous êtes moins dépendant de l'acquisition de nouveaux clients et vous êtes très fort pour faire revenir vos clients. Et je le vois d'ailleurs chez des marques qui font des croissances à 3 chiffres à l'année, elles ont toutes ou presque des ratios LTV sur CAC supérieurs à 3, en plus de se performer en acquisition. On passe au quatrième indicateur pour mesurer la santé de votre e-commerce, c'est la diversité au niveau des canaux publicitaires. Donc la question c'est, est-ce que l'e-commerçant dépend d'un seul canal d'acquisition payant ou est-ce qu'il a diversifié avec le temps entre différentes plateformes? Deuxième question, comment votre budget est réparti entre différentes plateformes? Donc si à la première question vous dites « Ok, moi je dépends que de Meta ou je dépends que de Google », c'est mauvais signe parce que, on va en parler après, s'il y a un problème sur une des plateformes, malheureusement vous pourriez avoir des problèmes de croissance parce que si d'un seul coup les coûts d'acquisition augmentent sur Meta, vous avez compris, ça peut être un problème sur votre e-commerce. Par contre, si vous n'avez pas forcément mis tous vos œufs dans le même panier et que vous avez diversifié entre différents canaux, par exemple Google, Facebook, Pinterest et également de l'organique, on en reparlera après, là vous êtes beaucoup plus certain d'aller chercher la croissance parce que s'il y a un canal d'acquisition qui fonctionne moins bien, vous savez que les autres pourraient continuer à performer. Donc moi, ce que j'aime bien dire en termes de répartition de budget qui est saine, j'aime bien donner une répartition avec trois canaux. Donc par exemple, 50% sur Meta, 40% sur Google et 10% sur une plateforme social ads comme Pinterest ou sur TikTok. Autrement, si vous n'êtes pas très fort en social ads, vous pourriez avoir par exemple 70% sur Google et 30% sur Meta. Ou l'inverse, 70% sur Meta ou 30% sur Google. Ça, c'est des répartitions saines que j'ai pu voir chez des e-commerçants qui ont des bonnes croissances. D'ailleurs, on a fait une étude qu'on a appelée le baromètre de l'acquisition des marques D2C et des NVB, donc l'année dernière, et pour moi, ça tient encore toujours aujourd'hui. C'est que parmi les marques qu'on a interrogées, on leur a demandé quels sont les canaux d'acquisition que vous utilisez le plus, et 92% d'entre elles nous ont affirmé utiliser Meta dans leur mix marketing, 86% ont affirmé utiliser Google et 31% ont affirmé utiliser Pinterest. Donc concrètement, c'est un peu les trois canaux les plus utilisés actuellement. Et donc en toute logique, si vous êtes une marque qui prend l'acquisition au sérieux, vous devriez être au moins sur Meta et sur Google puisque la majorité des DNVB sont sur ces canaux. Donc moi, mon conseil, c'est vraiment de viser 2 à 3 canaux avec au moins 10% du budget investi dans chaque canal. Après, pour autant, il y a des marques qui s'en sortent très bien en faisant que du Meta. Je pense à 900Care, où le fondateur m'avait expliqué que finalement, quasiment tout leur budget allait sur Meta parce qu'ils sont vraiment très forts sur Meta. Donc là, ça peut s'expliquer parce qu'ils ont trouvé quelque chose qui a fait qu'ils ont eu un avantage concurrentiel sur Meta, que ce soit au niveau de l'offre ou des créas. Et donc, ils misent beaucoup là-dessus. Et leur croyance à eux, c'est que s'ils veulent vraiment être au top au niveau acquisition, ils doivent maîtriser un canal d'acquisition sur le bout des doigts et investir le plus d'argent possible sur ce canal. Après, 900Care, c'est un peu particulier parce que je pense que leur produit en SEO ou sur Google Ads, il ne va pas aller chercher beaucoup de recherches et ils ne vont peut-être pas pouvoir se battre avec avec les acteurs qui se positionnent déjà dessus, d'autant plus que c'est un produit qui ne s'achète pas beaucoup en ligne de base. Donc pour moi, Meta est beaucoup plus adapté pour eux et c'est normal qu'ils investissent beaucoup dessus. Mais pour autant, je le répète, ça reste risqué d'être dépendant d'un seul canal parce que s'il y a un chamboulement technologique important au sein de la plateforme, donc par exemple iOS 14 comme on a pu avoir il y a 3 ans, ça peut poser problème pour la marque. D'accord ? Et le cinquième indicateur avec lequel je voulais terminer, c'est la présence organique. Donc comment mesurer en fait l'importance de la présence organique? Pour moi, c'est simplement la part de revenus qui est générée par de l'organique. Et là, j'ai envie de vous dire au moins 20%. Là, c'est un chiffre, je vous avoue, que je sors un peu de mon expérience, de ce que j'ai pu voir et de ce que j'ai pu lire. Donc là, de vous dire, ok, dans mon chiffre d'affaires, combien de pourcents des chiffres d'affaires est généré par de l'organique. Si vous êtes au moins à 20%, ça reste assez sain. Et évidemment, plus c'est élevé, au mieux, parce que vous l'avez compris, l'organique, vous ne devez pas payer. Et c'est clairement quelque chose que j'ai pu observer sur des marques qui ont beaucoup de succès sur les médias sociaux et qui ont une croissance qui est forte. Je pense à Respire, à Nutripure, à Merciandi, à Bobis par exemple, un client qu'on a accompagné. C'est que ces marques-là ont des communautés fortes, engagées. Elles ont beaucoup de trafic SEO, elles ont de l'influence, elles ont une base email qui est très importante. Elles ont parfois même une marque média, c'est-à-dire qu'elles ont créé un média à part pour parler de sujets, des thématiques reliées à leurs produits, leur marché ou leur valeur. Et ces marques-là, en fait, elles ont vraiment réussi à créer un écosystème très fort autour d'elles. Donc avec, comme je vous disais, du SEO, une présence forte sur les réseaux sociaux comme Instagram, comme sur TikTok, de l'email marketing. Et donc ces marques-là, en fait, elles sont beaucoup moins dépendantes de l'acquisition payante parce qu'elles ont tout cet écosystème organique qu'elles ont pu construire, qui leur a pris du temps, qui leur a pris l'énergie, qui leur a demandé des ressources, mais qui derrière, en fait, donne un vrai avantage concurrentiel parce qu'ils ne sont pas autant dépendants que d'autres marques de l'acquisition. Et en plus de ça, l'acquisition, généralement, l'acquisition payante, elle est toujours drivée par l'organique. Parce que si vous avez des bons contenus en organique, vous allez pouvoir les réutiliser en acquisition. Mais également, si vous avez une présence organique forte, avec des réseaux sociaux où il y a beaucoup de contenu, donc ça crée de la réassurance quand quelqu'un vous découvre et qu'il ne vous a jamais vu avant. Donc tout ça en fait permet de driver l'acquisition payante. Donc pour ça, moi je vous le dis, viser une part de revenus générée par de l'organique au moins supérieure à 20%, c'est un bon benchmark à vous donner. Et après, je peux m'appuyer sur d'autres chiffres que j'ai retrouvés sur internet et qui sont intéressants. Le premier, c'est que 43% du trafic e-commerce provient de recherches organique sur Google. Donc c'est énorme. Donc ça veut dire que ça, c'est une étude qui est sortie. Hein, donc c'est pas un chiffre que j'invente. Il faut miser sur du trafic SEO parce que c'est gratuit et que vous l'entendez, ben, 80% du trafic e-commerce est généré par des recherches organiques sur Google. Également, ce que dit l'étude, c'est que le SEO pour l'e-commerce a un retour sur investissement de 1600% par rapport au SIE. D'accord ? Et enfin, plus de 23% des recherches en ligne pour des produits démarrent sur Google. Donc ça veut dire que quand quelqu'un s'intéresse à un produit, 23% de ces personnes-là commencent leur recherche sur Google. Et une dernière stat que je voulais vous donner qui sort du Digital Native Group, qui ont fait une étude sur les DNVB en France, ils ont observé que 23% des DNVB ont comme principale source d'acquisition un canal organique, donc comme le SEO, le bouche-à-oreille, Instagram ou encore TikTok. Donc concrètement, ne négligez pas l'organique, ne pensez pas juste à l'acquisition payante. Faites également en sorte de créer des communautés et d'avoir peut-être une base email plus grande en taille et de miser également sur le SEO. Et voilà, on est arrivé au bout de l'épisode. J'espère que ça vous a plu, j'espère que cet épisode vous sera utile. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en message privé sur LinkedIn. Et comme d'habitude, si vous cherchez à vous faire accompagner par une agence pour piloter vos campagnes et pour vous permettre d'aller chercher plus de clients en acquisition payante, et bien vous n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous sur vos problématiques du moment et de vous proposer, si vous le souhaitez, une analyse gratuite de vos efforts actuels sur Facebook ou Google Ads. Merci de votre écoute et on se dit à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.